Bonjour. Ce 23 septembre 1991, il y a donc 25 ans et deux jours, notre voix, pour la toute première fois, était entendue sur les ondes de Radio Canu. C'est l'occasion de revenir, en flash sonore divers et multiples, sur ces 25 années de présence, d'intervention, de journalisme et de création radiophonique. En somme, 25 années de radio condensé en une heure. Bonne écoute.
La culture, on n'a pas souvent l'occasion, on n'en fait pas assez sans doute, et ça sera en même temps pour nous l'occasion d'annoncer l'émission suivante, qui d'ailleurs va être faite par Jean-Pierre, qui, comme il l'a fait aujourd'hui, participera quand il le pourra, autant qu'il le pourra, mais pas plus, parce qu'il lui faut préparer son émission suivante, qui participe donc aux informations. Et qui fera une émission sur la chanson française. Comment on la définit, Jean-Pierre ?
Oui, le titre, ce sera « Texte et chanson ». Je expliciterai un petit peu plus tout ça tout à l'heure. En attendant, on va finir par une information.
Alors, ce sera tous les 15 jours, on va bien préciser. Oui, là, on va en faire deux de suite.
On ne connaît pas encore très bien le rythme, mais on va le définir.
Chansons pour bercer les enfants, d'autres qui réveillent la révolte endormie. Il y en a des douces comme un cheval soumis, d'autres ont la violence du meurtre et du sang. Chanter la vie, l'amour et la mort, les saisons, les rêves, le travail et la grève. Au chant à la ville, chantez vos efforts, la chanson peut tout dire, le meilleur, le pire. On veut la réduire à la distraction, on dit qu'elle doit nous faire oublier la vie. À qui ça profite qu'on oublie la vie, qu'on fume du rêve bien planant, bien con. Chanter la vie, l'amour et la mort, les saisons, les rêves, le travail et la grève.
En dehors de ça, puisque nous recevons M. Mérieux et que le sida est un sujet que nous suivons, tous les problèmes de contamination et du sida que nous suivons de très près à Radio Canu depuis le début de l'affaire, nous souhaitions vous poser quelques questions après avoir relu un petit peu nos dossiers concernant cette affaire, auxquels vous pourrez peut-être nous apporter des éléments de réponse. La première, c'est de constater que vous étiez sensibilisé au risque et au moyen de sa résolution depuis février 85 et même fin 84, le risque de contamination par les produits sanguins. Et pourquoi ? Puisque depuis cette période, donc, vous aviez même lancé un programme de mise au point technique du procédé d'inactivation de chauffage du sang, un procédé qui sera agréé en novembre. Pourquoi avoir livré des concentrés non chauffés jusqu'au 4 novembre 85, alors que vous saviez officiellement que les tests sur les dons du sang étaient obligatoires depuis le mois d'août, et que depuis le 13 juillet, les produits étaient considérés comme dangereux, puisque le gouvernement avait annoncé qui ne serait pas remboursable au 1er octobre.
Alors, pour répondre à cette question, je vous dirais, je vous remercie de la poser, parce qu'elle me permet d'aborder un problème.
Il était merveilleux, le petit bruit d'enfant qui chante dans le cœur de ceux qui savent écouter le silence. C'est vrai qu'il était là. Le cinéma des jours anciens, trop d'images sensibles, ça fait du mal, ça fait du bien. Je vois dans leur vitrine tous les fantômes de mon quartier, le chien de la voisine, l'épicière et le charbonnier. Il est terrible et merveilleux, le petit bruit d'enfant qui chante dans le cœur.
Bonsoir, Bistantlac, donc ce soir avec un invité qui est André Bonhomme, auteur-compositeur, lyonnais, je crois. Et nous avons démarré cette émission d'entrée avec une de ses chansons, pas toute récente, qui s'appelle « Le petit bruit d'enfance ». Alors ce qui nous a donné un petit peu envie de commencer par ça, c'est le fait de savoir que vous êtes lyonnais, et puis peut-être même plus que ça, vous avez passé votre enfance tout près de Radio Canu.
Absolument, oui, mon petit bruit d'enfance, moi, il se situe justement au 19 de la rue Saint-Jean-Blandan, qui est tout à fait l'allée qui est en face de Radio Canu. Je crois qu'ici, quand j'étais petit, il y avait une blanchisseuse, ou je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Enfin, il y avait une dame, je ne me rappelle plus ce qu'elle faisait. Il y avait un magasin, voilà.
Oui, et vous y êtes resté jusqu'à...
Ah ben, jusqu'à l'âge de 20, 22 ans. 20
ah,
ans,
ben, ça fait un bail.
Ouais, c'est ça. Donc, je connais bien le quartier, oui. J'aime beaucoup, bien sûr, ce quartier, parce que c'est plein de signes pour moi, ce quartier, plein de résonances.
Revint le jour, l'aube insoumise. À la pique du temps brûle un quignon de pain, et la bataille se resserre comme une main tenant tenaille. Au bout du désespoir, il n'y a plus qu'un seul chemin, c'était celui de la victoire. Compagnons du bord du fleuve, la liberté nous est légère. Ce soir, chaque ouvrier porte en sautoir les clés de la cité.
La ville est jeune entre nos bras. Victoire est nôtre et la première qui soit pour nous. Veilleurs du haut des toits, guetteurs des barricades, criez dans les oreilles des fenêtres, c'est nous qui sommes les canuts. Les canuts ont vaincu leur maître.
Bon, ça va durer le 21, le 22, le 23. Et le 23, la ville est entre les mains des travailleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut lire en particulier les lettres du procureur du plan qui n'en revient pas. La ville, il n'y a pas de pillage. Mieux, les pillards, on en a exécuté, qui essayaient de s'emparer des biens d'un marchand fabricant, vis-à-vis desquels on exerce on le frappe d'une certaine répression. On va détruire une partie de ses meubles. Parce qu'il a donné sa maison en face du pont Morand aux soldats qui tiraient sur le peuple. Bon, mais on n'est pas des voleurs. C'est tout à fait remarquable, d'ailleurs. Et alors, bien entendu, par la suite, le préfet qui a laissé faire ça récupère et se présente comme le père des travailleurs. Et c'est vrai que l'insurrection aboutit dans une impasse. Il ne peut pas y avoir de révolution ouvrière dans une ville où, à cette époque-là, plus de 80% de la population est rurale encore. Hein. Bon, et ils sont isolés. Et le 13 décembre, ils vont être obligés d'accepter le retour de l'armée avec le fils de Louis-Philippe, qui est le gant de velours, mais le maréchal Soult, qui arrive et qui... lui, il va pratiquer la répression. Alors, suppression, bien entendu, on pouvait s'y attendre, du tarif, remplacé par une mercuriale qui constate seulement les prix. Mais, un certain nombre de choses survivront. L'écho de la fabrique va encore survivre. Il disparaîtra plus tard. Et à partir de ce moment-là, je dirais que des enseignements sont déjà apparus. Et à partir de là, aussi, un formidable retentissement. Dans la France, dans l'Europe, déjà, c'est la première grande insurrection ouvrière.
Amis auditeurs de Radio Canu, bonsoir. Jean-Pierre est au micro pour vous présenter l'émission Bistantlac les lundis de 20h à 21h.
Je voudrais dire, si vous voulez, d'abord un peu en forme d'avertissement avant la discussion. Ça me gêne toujours un peu de parler de la résistance dans des conditions comme celle-ci, par peur de jouer les anciens combattants. Ils racontent leur guerre, d'une part. Et puis, deuxièmement, parce que j'ai un ami écrivain qui, quand il me présente, me dit « Roger Dauphin, héros de la résistance ». Ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas de héros. Il y a des gens qui ont fait des choses. les héros, c'est des gens qui sont, je suppose, prêts à tout. Moi, je crois...
On n'est quand même pas héros par hasard.
C'est pas héros. On s'est placé dans des circonstances. Vous savez, je pense, par exemple, que le courage, quand on parle du courage, le plus grand courage, c'est de vaincre la peur. C'est ça, le vrai courage. Les gens qui se disent courageux, qui n'ont jamais peur, sont des inconscients.
Le type le plus courageux que j'ai connu dans la résistance, c'est probablement celui qui était le plus peureux aussi. Et qui allait jusqu'au bout et qui était volontaire pour les missions les plus périlleuses parce qu'il avait peur et qu'il voulait vaincre sa peur.
C'est vrai, maréchal, tu ignorais que tes miliciens torturaient. Tu condamnais De Gaulle à mort sans savoir que ça lui ferait du tort. Quand tu flirtais, vite, vite, voter les lois antisémites. Tu as dit, trop tard, mon Führer, je les ai fait voter hier. Maréchal, nous revoilà.
Nous revoilà.
L'amour au volant, c'est comme boire en dormant. Serment 5, bonhomme, dans 9 mois, t'en auras 10. Ça, c'est pour les chevalésas. Faites 36-15 sur Minitel, tapez SOS tendresse et répondez. Le sperme est-il moins ou plus léger que l'air? À force d'y mettre les mains pour voir si elle était toujours là, ils l'ont violée. Que veux-tu, on ne devrait pas employer des myopes dans la police? Tous les polygames ne sont pas musiciens, tous les polyglottes ne sont pas infidèles, tous les polygones ne sont pas lyonnais, tous les polyesters et les polyacides ne traînent pas à la Comédie Française et tous les polyspermes n'angoissent pas quand ils rencontrent un préservatif. Nul ne peut s'appeler Victor et s'assumer en tant qu'Étienne. On ne met pas suffisamment de sel sur la queue des moineaux, ni suffisamment de friture sur celle des pêcheurs à la ligne.
Écoutez, qui dégouline des cités, qui ne se fabrique pas à la caca d'épidémie françoise, mais se met en conserve tout aussi bien.
Ça peut t'amener au pire. Le pire comme tuer froidement. Oui. Peut-être en a-t-on déjà parlé ensemble. Oui. Une exécution comme il y en eut beaucoup. Même pas dans les règles de la guerre. Lâchement. Dans le dos. Les mains attachées. Les pieds, je ne m'en souviens plus. On appelait ça des corvées de bois. Oui. Un prisonnier que mon groupe avait capturé lors d'un accrochage dans le Djebel Zerouela. Après qu'on eût tiré de lui pendant plusieurs jours. Le maximum de renseignements sur ses camarades et les activités de son groupe, c'était un chef. Recherché depuis 5 ans dans tout le massif. Un grand. Un courageux, devenu un héros. J'avais été presque volontaire pour prendre en charge le commandement de cette corvée. Et au bout du compte, elle a fini par m'incomber. Le moment venu, j'ai tenu à ce que ce soit moi, et moi seul. Plutôt que mes harkis, ses frères. C'était mieux comme ça. Et puis, c'est moi qui commandais.
demander si vous avez le souvenir de quel moment vous avez été sûr que votre père était décédé. Parce que comme j'ai compris, il était parti, mais vous ne saviez pas trop ce qu'il était devenu pendant un grand moment.
Ben oui, jusqu'après le retour définitif de tous les déportés. Mais à ce moment-là, il fallait trouver les archives. Parce que dans les camps, il y avait les listes, etc. Et je ne peux pas vous dire exactement.
Il y a eu un jour où
à partir du moment où tout le monde était revenu et où on n'avait pas de nouvelles,
il restait l'espoir quand même.
Pardon ?
Il restait l'espoir.
Non, il n'en restait plus là. Oh, non. Mais je crois qu'après, ma mère a reçu de la part du ministère des anciens combattants un avis de pourquoi il a été trouvé sur les listes d'Auschwitz, quoi. Mais pour nous, c'est pas quelque chose qui m'a frappé, parce que pour nous, déjà, il était...
Lui et Brouillard, si vous deviez en garder qu'une, ce serait celle-là, non ?
Oh, sans doute, oui. Ouais. Je dis jamais... Je fais jamais de choix comme ça. Ouais.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été.
Le 15 novembre 1942, vous tombe un ordre, attaquer et tuer des officiers allemands.
Ah oui, ce qu'on n'avait pas pu faire par accident, là on nous dit qu'il faut le faire quand même. Alors là, ça posait des problèmes. Jeter une grenade sur les Allemands qui rentraient en zone sud, ça ne nous avait pas posé de problème. On disait, bon, ils rentrent, ils n'ont pas le droit de venir chez nous, on leur balance une grenade sur la gueule. Mais attaquer des Allemands qui déambulent paisiblement dans les rues, comme ça... Là, ça posait des problèmes.
Problèmes moraux ?
Moraux, oui. Ça ressemblait un peu à un assassinat, quoi. Mm. Bon, il fallait élever le débat pour dire, voilà, c'est le commencement de la guerre. Tout Allemand qui circule dans les rues de France doit être abattu, quel que soit le lieu. Et alors, il a fallu beaucoup de discussions. Et puis, un jour, bon, j'étais le responsable. J'ai pris la décision de me mouiller. J'ai pris un de mes hommes et nous nous sommes mis à la recherche d'Allemands, rue Victor Hugo, en plein centre de Lyon. Et nous en avons abattu un ce jour-là. Ça n'a pas tardé. Le lendemain, dans le Nouvelliste, il y avait un communiqué du maire et du préfet. Et il y avait des affiches qui étaient placardées sur les murs de Lyon pour nous dénoncer.
Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.
Monsieur Benedetto, bonjour. Je vous remercie d'accepter cet entretien pour Radio Canu. Je ne sais pas si vous avez une image de Radio Canu, une petite radio associative lyonnaise qui a 25 ans d'existence. Et qui
c'est une grandeur.
Oui, on peut considérer les choses comme ça, effectivement.
C'est un lieu magique, c'est-à-dire que dès qu'on le voit, on comprend pourquoi. Je pense que les gens vont comprendre pourquoi j'ai voulu ce lieu. C'est-à-dire que dès qu'on le voit, on s'aperçoit que ça nous représente tellement tous. C'est tellement un lieu où on peut y faire de la chanson, de la poésie, des débats philosophiques, des expositions peinture. Je pense à une grande exposition sculpture sur la place Colbert. Je pense que tous les jours, il faudra qu'on trouve un petit orgue de barbarie qui vienne éveiller un peu tout le monde. Il faudra qu'on... qu'on trouve cette solution pour que les quartiers, puisque tout le monde en parle à Lyon aujourd'hui, entre autres la gauche qui a été élue, je veux dire que la vie d'un quartier, moi ça fait 30 ans que je joue dans les rues, c'est quand on le fait, quand on va vers les gens, qu'on réussit à réveiller les gens. C'est pour ça que ça s'appelle le cœur des gens, d'ailleurs.
Optimiste,
je vois tout en bleu.
Optimiste,
j'ai un amoureux.
Optimiste, optimiste,
je vois tout en bleu. Quelques amis m'ont dit que j'étais folle d'avoir pour lui le cœur qui se décolle, d'avoir brisé ma vie de cantatrice
pour son quartier
en devenant factrice.
Michel Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous nous retrouvons pour parler de tout votre travail et puis plus particulièrement, alors autour du 8 mars, puisqu'on n'en sera pas loin, autour de la commune, autour de Louise Michel.
Mais je trouve que c'est particulièrement judicieux, on va dire, parce que c'est vrai que Louise Michel est une femme d'avant-garde, on va dire, c'est-à-dire qu'elle a développé un certain nombre d'idées qui ont fleuri par la suite, mais à l'époque, quand elle les développait, elle passait pour une folle ou une sauvage ou une hystérique. Et donc, c'est un coup de chapeau que j'avais envie de lui donner, lui rendre. Et voilà, c'est.
Optimiste.
Je vois tout en bleu.
Optimiste.
J'ai un amoureux.
Optimiste. Optimiste.
Je vois tout en bleu.
Oui, ben j'ai commencé à écrire un petit peu comme ça des anecdotes ou des choses ayant trait à la chanson et puis aussi un peu des réflexions. Enfin, peut-être que le mot est un peu ambitieux, mais voilà. Et puis toutes ces choses, eh bien, j'ai un ami qui a fabriqué un site qui est consacré à mon travail et on a eu l'idée de faire une rubrique dans laquelle je fais paraître régulièrement donc des petits billets, des petits textes qui parlent de la chanson.
Blue, 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 blue. Et alors ?
La psychologue du coiffeur de sa mère m'a invité hier à prendre un verre. C'était un piège, elles étaient 48,
armées de jurés de couteaux à litre.
Et c'est là où ça a eu l'influence de la poésie qui est venue tomber dans les endroits. Alors, Chêne et Scapri chantaient et je gardais mes bons restaurants où je gagnais des sous. Et plus qu'au cabaret. Parce que les cabarets, à cette époque-là, c'est pas terrible. C'est pas très bien payé.
Elles ont dit non, pas touche au grand bébé. Et sans rien boire, qu'est-ce qu'elle a pu trinquer?
Oui, aïe, oui, oh là là là.
Mettre au service la chanson pour dénoncer certaines choses, ok. Se servir d'une chanson comme d'un éditorial, moi je m'y risque pas, je m'y risquerai pas. En disant comme ça, tu penses, tu dois penser, je dis que, etc. Et tout. Non, je pense que la chanson, c'est quelque chose de suffisamment fragile, on y inscrit une petite parcelle de sa vie et de celle des autres. Alors, on n'a pas le droit de se servir de la chanson. Je ne suis pas un chanteur engagé. Je suis un chanteur dégagé derrière les oreilles.
Optimiste.
J'ai un amoureux.
Pessimiste,
tout le monde le veut.
Optimiste,
j'ai un amoureux.
Pessimiste,
tout le monde le veut.
De 68 sont issues des belles luttes féministes, des belles avancées féministes. Quel bilan vous faites aujourd'hui de la situation du féminisme en France?
Je pense qu'il faut qu'il continue. C'est clair que n'importe quelle minorité ou partie opprimée des populations doivent se battre pour leurs droits tout le temps, que ce soit les femmes, les homosexuels, les arméniens. Il faut jamais, jamais, jamais lâcher. Dès qu'on lâche, on prend tout sur la figure. Et puis ça a toujours été comme ça. Regardez l'émancipation des femmes qui a eu lieu pendant la guerre de 14, et puis écoutez les chansons des années 30. On a failli avoir le droit de vote en 25, en 30, 30, il n'est question que de grands frisés qui vous fout sur la... Enfin, c'est stupéfiant. Écoutez ce que chantent les filles. Regardez les filles à la télévision, comment elles se comportent. Si elles ne sont pas à moitié à poil, on ne les écoute pas. Enfin, c'est toujours en régression, les droits des femmes, comme les droits de tout le monde. Les droits sont toujours en régression. Si on ne lutte pas pour maintenir un minimum vital... Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que, par contre, les luttes changent de forme. Moi, j'ai une façon de chanter les femmes et de chanter les... qui est tout à fait différente de la façon dont chante Anne Sylvestre. C'est parce que j'arrive 30 ans après, on ne dit plus les mêmes choses. Et puis, tant mieux. Et puis, j'ai un plaisir fou à chanter « Non, tu n'as pas de nom » ou « Une sorcière comme les autres », qui sont des chansons qui m'arrachent les larmes des yeux, parce que c'est des chansons qui, à 15 ans, 20 ans, m'ont fait tenir debout et qu'on peut chanter encore aujourd'hui avec une émotion extraordinaire. Mais chaque génération a sa façon de porter la lutte et l'amour, parce qu'en fait, je pense que les luttes qui aboutissent, ce sont des luttes d'amour.
J'ai foi en toi et je te fais confiance. Optimiste,
je vois tout en bleu.
Optimiste,
je vois tout en bleu.
Optimiste,
je vois tout en bleu.
Optimiste.
Je proteste pour l'amour martyrisé. Pour les bouches sans baiser, pour les corps décomposés, pour l'échafaud, pour la peste. Je proteste pour la vie aussi qu'on eut, la mort dite naturelle.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'appelle Le Fou d'Elsa, mais en fait c'est un roman dont l'action se déroule de 1490 à 1492, c'est-à-dire la fin du royaume arabo-andalou d'Espagne et la reprise de Grenade et de toutes les villes du sud là, par Isabelle la Catholique. Donc, si vous voulez, ce passage, ce poème a en fait une structure de roman. C'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire.
Un roman historique, presque.
Oui, 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 en certains côtés, c'est un roman historique, mais il a voulu donner précisément une nouvelle vision de ce royaume arabo-andalou. Et il ne faut pas oublier que, bien que le poème ait paru en 63, c'est un texte qu'il a commencé à écrire en 59, et sous l'influence de la guerre d'Algérie.
Oui, j'ai jamais bien compris cette articulation-là.
Alors, précisément, il voulait faire quelque chose, si vous voulez, qui montre que les Algériens et les musulmans, la culture musulmane, était une culture qui nous avait, à nous occidentaux, appris beaucoup de choses, et que nous devions énormément à cette civilisation musulmane, dont à l'époque on disait pique-pendre, hein, rappelons-nous les manifestations, vous savez, réprimées de façon sanglante par Papon, en octobre 61, c'est une période que moi je connais bien parce que j'ai fait la guerre d'Algérie, j'étais tout fin en ce moment-là. Les Arabes étaient pas bons à acheter au cher. Remarquez que ça n'a pas énormément changé, enfin depuis, mais il y a quand même eu peut-être quand même quelques progrès, et je l'espère du moins. Mais donc c'était une réponse, ce livre poétique, aux dénigreurs de la civilisation arabe. Et c'était, si vous voulez, sa réponse de militant aussi à précisément ce dénigrement.
Porteurs d'oiseaux et de poignards, jeunes gens couleur de l'orgueil, les pieds agiles comme l'œil. Oh, les pierres que vous jetez, feu qui semez le soir aux femmes, cyclone du bonheur d'autrui, voleur de volailles et de fruits, oh, votre rire dans les haies.
dans ma rêverie. Indécente, je te saute au cou. Toi qui chantes, je te coupe la parole. Musicienne, et mes lèvres se collent aux tiennes. Je te confisque l'instrument, je me fais fougueux et violent d'un geste. Je libère tes mamelons de leur douce prison de coton. Mes mains pétrissent tes seins blancs dressés comme deux voiles au vent qui m'hypnotisent, me tiennent tête et qu'inlassable moi je t'aide.
Une autre caractéristique qui va surprendre nos auditeurs, vous, je pense pas, mais je peux vous annoncer très sincèrement que vous êtes, et de loin, le chanteur le plus excité sexuellement que j'ai jamais reçu.
C'est vrai. À ce point, non.
Alors, ma question, c'est est-ce que ça va se calmer?
J'espère pas, ce serait triste.
Maintenant que j'ai goûté le haut, je m'attaque à ton paréo, son œil léger. Fragile et glisse sous mes doigts, agile, te voilà nu et sans étui. Superbe au soleil, de midi est là, là sur la pierre brûlante. Nous nous aimons, ma belle amante, ouais, nous nous aimons. Passionné, grillons sous les rayons.
Alors on a continué de marcher, on allait. On entend le canon, on entend l'offensive alliée. On sort de la maison, enfin je sors de la maison, les copains, tout d'un coup on entend trois avions qui passent, c'était des Anglais. On a vu les Anglais, ça, ils ont le disque rouge, tricolore, et ça mitraille. Nous, et après on entend que ça crie, que ça hurle, ça. Donc on va, il y a deux bus qui sont sur l'autoroute, qui ont été mitraillés par les avions. Et ce sont deux bus dans lesquels se trouvent des jeunes filles qui ont entre 14 et 17 ans. Alors là, c'est affreux. Et nous, on est là. La vraie... Alors là, moi, ça m'a fait vraiment... J'étais choqué. Donc, on participe. On aide à sortir les victimes avec celles qui, elles, ont échappé. On les aligne sur le sol, quoi, comme ça. Donc il y a déjà celles qui ne vivent plus. Et vous avez les blessés. Il y en a une, je me rappelle, moi je la prends, puis je la dépose sur le sol, sur le bord, quoi. Elle me regardait si vous aviez vu ça. La porte, et je l'étends. Elle me tenait la main, elle me serrait la main. Puis je voyais son regard. On voyait qu'elle était désespérée. Et elle meurt dans mes bras.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle. Deux sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas.
Je pense que ces équipes de protection, elles ont été... importante, mais je les ai supprimées, moi, dès mon arrivée à Lyon, parce que lorsque j'allais à Grenoble, j'avais un gars ou deux devant mon wagon, un gars au gueuleux derrière, ils étaient armés, ils étaient chargés de ma sécurité, ça veut dire qu'ils devaient tirer, et moi, leur mission, c'était de me sauver. Mais c'était dangereux, parce que ça augmentait encore le danger. J'ai supprimé cela, j'ai gardé que mes groupes armés, j'avais 42 groupes armés, la plupart dans des entreprises. Chaque entreprise avait son groupe armé, et c'est avec eux que, lorsque je prenais la parole, dans les usines ou tout, je prenais la parole et j'avais l'équipe de protection. Et je partais, bien sûr, je parlais 2 minutes, 3 minutes, Et puis, l'équipe de protection me protégeait. Et c'est les camarades qui avaient organisé cela qui ont payé le plus cher. Parce que après, il y avait l'événement. On avait fait l'événement. C'est ce qu'on avait recherché. Mais il y avait l'enquête. Et l'enquête, il y avait ceux qui avaient préparé les choses. Et c'est cela à qui je rends hommage. Parce que nous, on était protégés, mais eux, ils étaient à découvert. Et lorsqu'il y avait les rafles, lorsqu'on a commencé à fusiller les otages et tout, c'est eux qui ont payé en grande partie. Voilà pourquoi je voulais rendre cet hommage aujourd'hui, des dizaines d'années après.
Petite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda.
C'est vrai que c'est l'heure de goûter.
Je crois en effet qu'il ne doit pas être loin de 4h30.
Il est gentil.
Ce n'est pas le mien. Remarquez qu'il pourrait être le mien, et que souvent on le prend pour le mien. Mais je dois dire que non, il n'a rien à voir avec moi.
Ah, je comprends. Je n'en ai pas non plus.
Quelquefois, cela paraît curieux qu'il y en ait un, et partout, et qu'on n'en ait aucun à soi, vous ne trouvez pas ?
Sans doute, mademoiselle, mais il y en a tellement déjà, non ?
N'empêche, monsieur.
Mais quand on les aime, quand ils vous plaisent beaucoup, est-ce que cela n'a pas moins d'importance ?
Ne pourrait-on pas dire aussi bien le contraire ?
Oh, sans doute, mademoiselle, oui, cela doit dépendre de son caractère. Et il me semble que certains peuvent se contenter de ceux qui sont déjà là. Et je crois bien que je suis de ceux-là. J'en ai vu beaucoup. Et je pourrais en avoir à moi aussi, mais voyez-vous, j'arrive à me contenter de cela.
Vous en avez vu tellement, monsieur ? Vraiment ?
Oui, mademoiselle, je voyage.
Je vois.
Sauf en ce moment où je me repose, je voyage tout le temps.
C'est un endroit bien indiqué, les squares, pour se reposer, en effet. Surtout en cette saison. J'aime bien les squares, moi aussi. Être dehors.
Ça ne coûte rien. C'est toujours gai à cause des enfants, puis... De temps en temps, on y trouve l'occasion de parler un peu.
Oui, c'est vrai que de ce point de vue aussi, c'est bien pratique. Vous vendez des choses, monsieur, tout en voyageant ?
Oui, c'est ça mon métier.
Toujours les mêmes choses ?
Non, des choses différentes, mais oh, petites. Oh, vous savez, de ces petites choses dont on a toujours besoin et qu'on oublie si souvent d'acheter. Elles tiennent toutes dans une valise de grandeur moyenne. Je suis, si l'on veut, une sorte de voyageur de commerce, vous voyez ce que je veux dire ?
Que l'on voit sur les marchés, la valise ouverte devant vous.
C'est ça, oui, mademoiselle. On me voit aux abords des marchés de plein air.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander si cela est d'un revenu régulier, monsieur ?
Je n'ai pas à me plaindre, mademoiselle.
Je ne le pensais pas, vous voyez ?
Je ne dis pas que ce revenu est important, non, mais tous les jours, on gagne quelque chose. C'est ça que j'appelle régulier.
Vous mangez donc à votre faim, monsieur, si j'ose encore me permettre.
Oui, mademoiselle, je mange à peu près à ma faim. Je ne veux pas dire par là que je mange tous les jours de la même façon, non. Il arrive quelquefois que c'est un peu juste, mais enfin, j'arrive à manger tous les jours, oui.
Tant mieux, monsieur.
Merci, mademoiselle. Oui, j'y arrive à peu près tous les jours, voyez-vous. Comme je suis seul et que je n'ai pas de domicile, je n'ai naturellement que peu de soucis. Les seuls que j'ai me concernent moi seul. Quelquefois, il me manque un tube de dentifrice, quelquefois encore, je manque un peu de compagnie. Mais à part ça, cela peut aller, mademoiselle, oui. Je vous remercie.
Il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé contre un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue. Dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin dans la vitrine du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde, l'homme. Il s'en fout de sa tête. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents, doucement. Car ce monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter durant 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours. 3 nuits. Sans manger. Et derrière ses vitrines, ses pâtés, ses conserves, ses bouteilles, poissons morts protégés par des boîtes, boîtes protégées par des vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot. Café crème et croissant chaud, l'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardine à manger, œuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme, très estimé dans son quartier, a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit 0 francs 70, un café arrosé, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé contre un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
1000e émission et dernière, donc au fil de laquelle on va évoquer pas mal de choses. Je voulais en préambule adresser quelques remerciements. Ben déjà à Radio Canu, qui est sans doute bien la seule radio à accepter une émission pareille sans aucune censure ni imposition de ligne de direction d'antenne, sauf un contrôle permanent du collectif des autres animateurs et des auditeurs. Remerciements aux quelques 250 artistes et intervenants qui ont accepté mes invitations dans ces studios au fil des années et qui ont bien voulu, donc, pour certains, accepter même des prestations en direct. Aux artistes qui ont écrit toutes ces paroles, musiques, textes dont on s'est servi pour illustrer d'une manière sonore toutes ces heures d'émission. Un salut aussi et remerciement à André Morisson, une espèce d'éminence grise de cette émission, qui est très discret et qui n'a jamais voulu paraître, mais à qui les auditeurs doivent tant et tant de documents sonores qu'ils ont pu découvrir ici, dont ils se sont délectés et qui ont travaillé souvent en collaboration pour monter ces émissions avec ces documents. Voilà, et puis bien sûr, remerciements, et comment, aux artistes qui ont bien voulu ce soir répondre à mon invitation et qui vont nous permettre de réaliser cette émission en direct, en paroles, musique et chansons.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant les bandes d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, donc cueillant rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Bonsoir. Depuis une vingtaine d'années, je réalise des entretiens radiophoniques pour Radio Canu, avec en particulier des personnes ayant une part de leur vie liée à l'histoire. Je ne suis pas historien ni journaliste professionnel, mais simplement passionné depuis très longtemps, disons pour faire court, de radio, d'expression, de culture et d'éducation populaire. Ce qui m'intéresse dans ces entretiens, c'est surtout la restitution du vécu, des émotions, du ressenti et du cheminement personnel des gens.
Puis d'autres fois, ben non, s'il reste brûlé. Et je me rappelle d'un gars, mais c'est là que j'ai dit, mais qu'est-ce que t'es devenu quand même? On trouve un gars qui était tout brûlé, mais alors... brûlé, il était rouge, la peau partait, il n'était pas carbonisé, hein, c'était pas un bout de charbon, c'était brûlé, avec de la peau qui s'en allait, mais il était mort, hein, je sais plus. Et puis le piton dit, oh, on s'arrête là, on attend, on était sur le piton, donc on s'arrête là, et puis on avait faim, on a mangé. Et moi, le gars, il était à 4 mètres de moi. Et j'ai mangé. Je me dis, mais comment on peut manger comme ça? Ça ne me faisait plus rien. C'est là par rapport, quand on parlera des réactions des soldats, c'est que sa capacité d'émotion, elle est épuisée dans sa propre survie et dans la survie des copains. Donc il ne reste rien pour les autres.
Un blessé, poste de secours, ravin du Basile, avril 1916. Celui-là fut touché ce matin, d'un tout petit éclat d'obus à la tête. Il est venu tout seul, ici, se faire panser. très excité, parlant beaucoup, il disait « Ce n'est rien, je vais m'asseoir une minute. » Au-dessus de l'oreille, un petit trou rougeâtre, à peine visible. Simple écorchure de la peau, sans doute, par le petit fragment de fonte. L'infirmier, déjà, lui avait pris la tête pour mettre un peu d'iode sur sa plaie quand, tout à coup, je le vis qui regardait ses doigts, puis la tempe du côté opposé, et qui appelait d'un signe l'aide-major. L'éclat d'obus a traversé le crâne. Un peu de cervelle a coulé et l'homme est là, debout. Il ne souffre pas, seulement il parle. Il parle sans cesse, répétant toujours les mêmes phrases. Ses yeux sont étranges, un peu voilés. L'un d'eux se ferme à demi, ce qui donne à sa pauvre figure un air de rire qui fait mal à regarder. D'abord, il a crié contre les gens qu'il avait fait asseoir et qui voulaient qu'il reste là, sans rien faire, pour une égratignure. Il a fallu que le médecin le raisonnât et lui dit « Attends un peu, c'est moi qui te garde. On va te donner quelque chose à boire, tu t'en iras bientôt, dans une heure. Il faut que tu te reposes. » Le blessé s'est assis sans mot dire, en haussant les épaules. Tous, autour de lui, nous étions là qui savions sa blessure et qu'il allait mourir. Lui ne savait rien. Il est resté un bon quart d'heure, sans presque un mouvement, puis, doucement, il a penché sa tête et s'est mis à vomir sur lui, sur ses mains, sans effort, sans même s'en apercevoir. Sa bouche s'est tirée dans un affreux sourire. Alors, on l'a couché sur un brancard, à côté des autres. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Crown, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse.
Alors, nous allons parler bien sûr d'Elsa Triolet. Parmi vous, il y en a beaucoup qui doivent l'avoir lu, d'autres en ont au moins entendu parler. Une chose est certaine, c'est qu'on en a parlé longuement lorsque on parlait de Aragon et puis les poèmes pour Elsa. Donc la fameuse Elsa, c'est elle.
Ce qu'on aimerait dire, c'est insister justement sur cette femme singulière que fut Elsa Triolet, une femme d'origine russe, qui choisit un destin français, qui choisit une autre langue que sa langue maternelle. Elle vit dans un premier temps à l'ombre d'un géant de la littérature mondiale qui est Vladimir Maïakovski, le chantre et le héros de la Révolution d'Octobre, et qui ensuite va rencontrer Louis Aragon, avec lequel elle va construire ce qu'on appellera les œuvres romanesques croisées, c'est-à-dire que leurs œuvres vont se répondre l'une l'autre.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse.
$250,000 à Lyon, est-ce que c'était ça? Peut-être pas, peu importe. Pour une fois que la police est d'accord avec les chiffres des manifestants, on va pas se plaindre. mais en tous les cas, énormément de monde. Personnellement, je n'y étais pas. Je n'y étais pas pour cause de divergences politiques et de manque de clarté politique de cette manifestation. On a beaucoup joué sur un émotionnel très fort. Alors, nous sommes en première ligne pour être touchés par cet émotionnel, parce que Cabu, Volinsky, c'est des compagnons de route de 50 ans, pratiquement. Donc, voilà, hein, la tristesse, elle est là, la révolte, la solidarité avec Charlie, tout ça, c'est là. Mais de là à se faire instrumentaliser par Hollande pour faire remonter sa cote de popularité et à se retrouver dans les rues derrière des gens absolument pas fréquentables, surtout sur une affaire de liberté d'expression, de liberté de la presse, il faut quand même pas trop nous en demander, quoi. Ceci dit, nous étions aussi quand même à la première manif de mercredi soir au Terreau, mais voilà.
Se quiere regalar.
Mi canto es un canto libre.
A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar.
Mi canto es un canto libre.
Je ressentis devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur. Nous oublions toujours qu'ils sont individuels et leur substituant dans notre esprit un type de convention que nous formons en faisant une sorte de moyenne entre les différents visages qui nous ont plu, entre les plaisirs que nous avons connus. Nous n'avons que des images abstraites qui sont languissantes et fades parce qu'il leur manque précisément ce caractère d'une chose nouvelle, différente de ce que nous avons connu, ce caractère qui est propre à la beauté et au bonheur. Et nous portons sur la vie un jugement pessimiste et que nous supposons juste, car nous avons cru y faire entrer en ligne de compte le bonheur et la beauté, quand nous les avons omis et remplacés par des synthèses où deux, il n'y a pas un seul atome.
Sur les murs, la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs là que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Thank you.
Thank you.